selon sa vieille habitude de banquier, Grosse Tête avait minuté la réponse suivante, sur le dos même de cette lettre, en mettant au-dessus le mot sacramentel, répondu. Il est d'autant plus inutile, mon cher Gérard, de discuter les observations contenues dans votre lettre, que, par un jeu du hasard, je me sers du mot des sceaux. J'ai une proposition à vous faire, dont l'effet est de vous tirer de la situation où vous vous trouvez si mal. Madame Grasselin, propriétaire des forêts de Montaignac et d'un plateau fort ingrat qui s'étend au bas de la longue chaîne de collines sur laquelle est sa forêt, a le dessein de tirer parti de cet immense domaine, d'exploiter ses bois et de cultiver ses plaines caillouteuses. Pour mettre ce projet à exécution, elle a besoin d'un homme de votre science et de votre ardeur, qui est à la fois votre dévouement désintéressé et vos idées d'utilité pratique. Peu d'argent et beaucoup de travaux à faire. Un résultat immense par de petits moyens. Un pays à changer en entier. Faire jaillir l'abondance du milieu le plus dénué, n'est-ce pas ce que vous souhaitez, vous qui voulez construire un poème? D'après le ton de sincérité qui règne dans votre lettre, je n'hésite pas à vous dire de venir me voir à Limoges. Mais, mon ami, ne donnez pas votre démission. Faites-vous seulement détacher de votre corps en expliquant à votre administration que vous allez étudier des questions de votre ressort en dehors des travaux de l'État. Ainsi, vous ne perdrez rien de vos droits et vous aurez le temps de juger si l'entreprise conçue par le curé de Montaignac et qui sourit à Madame Grasselin est exécutable. Je vous expliquerai de vive voix les avantages que vous pourrez trouver, le cas où ces vastes changements seraient possibles. Comptez toujours sur l'amitié de votre tout dévoué, Grosse Tête. Madame Grasselin ne répondit pas autre chose à Grosse Tête que ce peu de mots. Merci, mon ami. J'attends votre protégé. Elle montra la lettre de l'ingénieur à M. Bonnet, en lui disant « Encore un blessé qui cherche le grand hôpital. » Le curé lut la lettre, il la relut, fit deux ou trois tours de terrasse en silence, et la rendit en disant à Madame Grasselin « C'est d'une belle âme et d'un homme supérieur. » Il dit que les écoles inventées par le génie révolutionnaire fabriquent des incapacités. Moi, je les appelle des fabriques d'incrédules, car si M. Gérard n'est pas un athée, il est protestant. Nous le demanderons, dit-elle, frappée de cette réponse. 15 jours après, dans le mois de décembre, malgré le froid, M. Grosse Tête vint au château de Montaignac pour y présenter son protégé que Véronique et M. Bonnet attendaient impatiemment. « Il faut vous bien aimer, mon enfant, » dit le vieillard en prenant les deux mains de Véronique dans les siennes et les lui baisant avec cette galanterie de vieilles gens qui n'offense jamais les femmes. « Oui, bien vous aimer. » pour avoir quitté Limoges par un temps pareil. Mais je tenais à vous faire moi-même cadeau de M. Grégoire Gérard, que voici. C'est un homme selon votre cœur, M. Bonnet, dit l'ancien banquier, en saluant affectueusement le curé. L'extérieur de Gérard était peu prévenant. De moyenne taille, épais de forme, le cou dans les épaules, selon l'expression vulgaire, il avait les cheveux jaunes d'or, les yeux rouges de l'albinos, des cils et des sourcils presque blancs. Quoique son teint, comme celui des gens de cette espèce, fut d'une blancheur éclatante, des marques de petites véroles et des coutures très apparentes lui ôtaient son éclat primitif. L'étude lui avait sans doute altéré la vue, car il portait des conserves. Quand il se débarrassa d'un gros manteau de gendarme, l'habillement qu'il montra ne rachetait point la disgrâce de son extérieur. La manière dont ses vêtements étaient mis et boutonnés, sa cravate négligée, sa chemise sans fraîcheur, offraient les marques de ce défaut de soin sur eux-mêmes que l'on reproche aux hommes de science, tous plus ou moins distraits. Comme chez presque tous les penseurs, sa contenance et son attitude, le développement du buste et la maigreur des jambes annonçaient une sorte d'affaissement corporel produit par les habitudes de la méditation. Mais la puissance de cœur et l'ardeur d'intelligence, dont les preuves étaient écrites dans sa lettre, éclataient sur son front, qu'on eût dit taillé dans du marbre de Carrare. La nature semblait s'être réservée cette place pour y mettre les signes évidents de la grandeur, de la constance, de la bonté de cet homme. Le nez, comme chez tous les hommes de race gauloise, était d'une forme écrasée. Sa bouche, ferme et droite, indiquait une discrétion absolue et le sens de l'économie. Mais tout le masque, fatigué par l'étude, avait prématurément vieilli. Nous avons déjà, monsieur, à vous remercier, dit Madame Grasselin à l'ingénieur, de bien vouloir venir diriger des travaux dans un pays qui ne vous offrira d'autres agréments que la satisfaction de savoir qu'on peut y faire du bien. « Madame, répondit-il, Monsieur Grosse-Tête m'en a dit assez sur vous pendant que nous cheminions pour que je fusse heureux de vous être utile et que la perspective de vivre auprès de vous et de Monsieur Bonnet me parut charmante. À moins que l'on ne me chasse du pays, j'y compte finir mes jours. Nous tâcherons de ne pas vous faire changer d'avis, dit en souriant Madame Grasselin. Voici, dit Grosse Tête à Véronique en la prenant à part, des papiers que le procureur général m'a remis. Il a été fort étonné que vous ne vous soyez pas adressé à lui. Tout ce que vous m'avez demandé s'est fait avec promptitude et dévouement. D'abord, votre protégé sera rétabli dans tous ses droits de citoyen. Puis, d'ici à 3 mois, Catherine Curieux vous sera envoyée. Où est-elle ? Demanda Véronique. À l'hôpital Saint-Louis, répondit le vieillard. On attend sa guérison pour lui faire quitter Paris. Ah, la pauvre fille est malade. Vous trouverez ici tous les renseignements désirables, dit Grosse Tête en remettant un paquet à Véronique. Elle revint vers ses hôtes pour les emmener dans la magnifique salle à manger du rez-de-chaussée, où elle alla, conduite par Grosse Tête et Gérard, auxquels elle donna le bras. Elle servit elle-même le dîner sans y prendre part. Depuis son arrivée à Montaignac, elle s'était faite une loi de prendre ses repas seule. Et Aline, qui connaissait le secret de cette réserve, le garda religieusement, jusqu'au jour où sa maîtresse fut en danger de mort. Le maire, le juge de paix et le médecin de Montaignac avaient été naturellement invités. Le médecin, jeune homme de 27 ans, nommé Roubaud, désirait vivement connaître la femme célèbre du Limousin. Le curé, fut d'autant plus heureux d'introduire ce jeune homme au château qu'il souhaitait composer une espèce de société à Véronique, afin de la distraire et de donner des aliments à son esprit. Roubaud était un de ces jeunes médecins absolument instruits, comme il en sort actuellement de l'école de médecine de Paris, et qui, certes, aurait pu briller sur le vaste théâtre de la capitale. Mais, effrayé du jeu des ambitions à Paris, se sentant d'ailleurs plus de savoir que d'intrigue, plus d'aptitude que d'avidité, son caractère doux l'avait ramené sur le théâtre étroit de la province, où il espérait être apprécié plus promptement qu'à Paris. À Limoges, Roubaud se heurta contre des habitudes prises et des clientèles inébranlables. Il se laissa donc gagner par M. Bonnet, qui, sur sa physionomie douce et prévenante, le jugea comme un de ceux qui devaient lui appartenir et coopérer à son œuvre. Petit et blond, Roubaud avait une mine assez fade, mais ses yeux gris trahissaient la profondeur du physiologiste et la ténacité des gens studieux. Montaignac ne possédait qu'un ancien chirurgien de régiment, beaucoup plus occupé de sa cave que de ses malades, et trop vieux d'ailleurs pour continuer le dur métier d'un médecin de campagne. En ce moment, il se mourait. Roubaud habitait Montaignac depuis 18 mois et s'y faisait aimer. Mais ce jeune élève des Desplein et des successeurs de Cabanis ne croyait pas au catholicisme. Il restait en matière de religion dans une indifférence mortelle et n'en voulait pas sortir. Aussi désespérait-il le curé, non qu'il fît le moindre mal. Il ne parlait jamais religion. Ses occupations justifiaient son absence constante de l'Église. Et d'ailleurs, incapable de prosélytisme, il se conduisait comme se serait conduit le meilleur catholique. Mais il s'était interdit de songer à un problème qu'il considérait comme hors de la portée humaine. En entendant dire aux médecins que le panthéisme était la religion de tous les grands esprits, le curé le croyait incliné vers les dogmes de Pythagore sur les transformations. Roubaud, qui voyait Madame Grasselin pour la première fois, éprouva la plus violente sensation à son aspect. La science lui fit deviner dans la physionomie, dans l'attitude, dans les dévastations du visage, des souffrances inouïes, et morales et physiques, un caractère d'une force surhumaine, les grandes facultés qui servent à supporter les vicissitudes les plus opposées. Il y entrevit tout, même les espaces obscurs et cachés à dessein. Aussi aperçut-il le mal qui dévorait le cœur de cette belle créature. Car, de même que la couleur d'un fruit, il laisse soupçonner la présence d'un ver rongeur, de même, certaines teintes dans le visage permettent au médecin de reconnaître une pensée vénéneuse. Dès ce moment, M. Roubaud s'attacha si vivement à Mme Grasselin qu'il eut peur de l'aimer au-delà de la simple amitié permise. Le front, la démarche et surtout les regards de Véronique avaient une éloquence que les hommes comprennent toujours et qui disait aussi énergiquement qu'elle était morte à l'amour que d'autres femmes disent le contraire par une contraire éloquence. Le médecin lui voua tout à coup un culte chevaleresque. Il échangea rapidement un regard avec le curé. Monsieur Bonnet se dit alors en lui-même « Voilà le coup de foudre qui le changera. Madame Grasselin aura plus d'éloquence que moi. » Le maire, vieux campagnard, ébahi par le luxe de cette salle à manger, est surpris de dîner avec l'un des hommes les plus riches du département, avait mis ses meilleurs habits. Mais il s'y trouvait un peu gêné, et sa gêne morale s'en augmenta. Madame Grasselin, dans son costume de deuil, lui parut d'ailleurs extrêmement imposante. Il fut donc un personnage muet. Ancien fermier à Saint-Léonard, il avait acheté la seule maison habitable du bourg et cultivait lui-même les terres qui en dépendaient. Quoiqu'il sût lire et écrire, il ne pouvait remplir ses fonctions qu'avec le concours de l'huissier de la justice de paix, qui lui préparait sa besogne. Aussi désirait-il vivement la création d'une charge de notaire, pour se débarrasser sur cet officier ministériel du fardeau de ses fonctions. Mais la pauvreté du canton de Montaignac y rendait une étude à peu près inutile, et les habitants étaient exploités par les notaires du chef-lieu d'arrondissement. Le juge de paix, nommé Clouzier, était un ancien avocat de Limoges, où les causes l'avaient fui, car il voulut mettre en pratique ce bel axiome que l'avocat est le premier juge du client et du procès. Il obtint vers 1809 7 places, dont les maigres appointements lui permirent de vivre. Il était alors arrivé à la plus honorable, mais à la plus complète misère. Après 22 ans d'habitation dans cette pauvre commune, le bonhomme, devenu campagnard, ressemblait, à sa redingote près, au fermier du pays. Sous cette forme quasi grossière, Clouzier cachait un esprit clairvoyant, livré à de hautes méditations politiques, mais tombé dans une entière insouciance, due à sa parfaite connaissance des hommes et de leurs intérêts. Cet homme, qui pendant longtemps trompa la perspicacité de M. Bonnet, et qui, dans la sphère supérieure, eut rappelé l'hôpital, incapable d'aucune intrigue, comme tous les gens réellement profonds, avait fini par vivre à l'état contemplatif des anciens solitaires. Riche sans doute de toutes ses privations, aucune considération n'agissait sur son esprit. Il savait les lois et jugeait impartialement. Sa vie, réduite au simple nécessaire, était pure et régulière. Les paysans aimaient M. Clouzier et l'estimaient, à cause du désintéressement paternel avec lequel il accordait leurs différends et leur donnait ses conseils dans leurs moindres affaires. Le bonhomme Clouzier, comme disait tout Montaignac, avait depuis 2 ans pour greffier un de ses neveux, jeune homme assez intelligent, et qui, plus tard, contribua beaucoup à la prospérité du canton. La physionomie de ce vieillard se recommandait par un front large et vaste. Deux buissons de cheveux blanchis étaient ébouriffés de chaque côté de son crâne chauve. Son teint coloré, son embonpoint majeur, eussent fait croire, en dépit de sa sobriété, qu'il cultivait autant Bacchus que Trollon et Toullier. Sa voix presque éteinte indiquait l'oppression d'un asthme. Peut-être l'air sec du haut Montaignac avait-il contribué à le fixer dans ce pays. Il y logeait dans une maisonnette, arrangée pour lui par un sabotier assez riche, à qui elle appartenait. Clouzier avait déjà vu Véronique à l'église, et il l'avait jugée, sans avoir communiqué ses idées à personne, pas même à M. Bonnet, avec lequel il commençait à se familiariser. Pour la première fois de sa vie, le juge de paix allait se trouver au milieu de personnes en état de le comprendre. Une fois placés autour d'une table richement servie, car Véronique avait envoyé tout son mobilier, de Limoges à Montaignac, ces 6 personnages éprouvèrent un moment d'embarras. le médecin, le maire et le juge de paix, ne connaissaient ni Grosse Tête ni Gérard. Mais pendant le premier service, la bonhomie du vieux banquier fondit insensiblement les glaces d'une première rencontre. Puis, l'amabilité de Madame Grasselin entraîna Gérard et encouragea M. Roubaud. Manié par elle, ces âmes pleines de qualités exquises reconnurent leur parenté. Chacun se sentit bientôt dans un milieu sympathique. Aussi, lorsque le dessert fut mis sur la table, quand les cristaux et les porcelaines à bord dorés étincelèrent, quand des vins choisis circulèrent, servis par Aline, par Champion et par le domestique de Grosse Tête, la conversation devint-elle assez confidentielle pour que ces quatre hommes d'élite, réunis par le hasard, se disent leurs vraies pensées sur les matières importantes qu'on aime à discuter, en se trouvant tous de bonne foi. Votre congé a coïncidé avec la révolution de juillet, dit Grosse Tête à Gérard, d'un air par lequel il lui demandait son opinion. Oui, répondit l'ingénieur. J'étais à Paris durant les trois fameux jours. J'ai tout vu. J'en ai conclu de tristes choses. Et quoi ? Dit M. Bonnet avec vivacité. Il n'y a plus de patriotisme que sous les chemises sales, répliqua Gérard. Là est la perte de la France. Juillet est la défaite volontaire des supériorités de nom, de fortune et de talent. Les masses dévouées ont remporté la victoire sur des classes riches, intelligentes, chez qui le dévouement est antipathique. À en juger par ce qui arrive depuis un an, reprit M. Clouzier, le juge de paix, ce changement est une prime donnée au mal qui nous dévore, à l'individualisme. D'ici à 15 ans, toute question généreuse se traduira par « Qu'est-ce que cela me fait ?» Le grand cri du libre arbitre, descendu des hauteurs religieuses où l'on introduit Luther, Calvin, Zwingli et Knox, jusque dans l'économie politique. Chacun pour soi, chacun chez soi, ces deux terribles phrases formeront, avec le « qu'est-ce que cela me fait ?», la sagesse trinitaire du bourgeois et du petit propriétaire. Cet égoïsme est le résultat des vices de notre législation civile, un peu trop précipitamment faite, et à laquelle la révolution de juillet vient de donner une terrible consécration. Le juge de paix rentra dans son silence habituel après cette sentence, dont les motifs durent occuper les convives. Enhardi par cette parole de Clouzier et par le regard que Gérard et Grosse Tête échangèrent, M. Bonnet osa davantage. « Le bon roi Charles X, dit-il, vient d'échouer dans la plus prévoyante et la plus salutaire entreprise qu'un monarque ait jamais formée, pour le bonheur des peuples qui lui sont confiés, et l'Église doit être fière de la part qu'elle a eue dans ses conseils. Mais le cœur et l'intelligence ont failli aux classes supérieures, comme il lui avait déjà failli dans la grande question de la loi sur le droit d'aînesse. Éternel honneur du seul homme d'État hardi qui ait eu la Restauration, le comte de Peyronnet. Reconstituer la nation par la famille, ôter à la presse son action venimeuse, en ne lui laissant que le droit d'être utile, faire rentrer la chambre élective dans ses véritables attributions, rendre à la religion sa puissance sur le peuple, tels ont été les quatre points cardinaux de la politique intérieure de la maison Bourbon. Eh bien, d'ici à 20 ans, la France entière aura reconnu la nécessité de cette grande scène politique. Le roi Charles X était d'ailleurs plus menacé dans la situation qu'il a voulu quitter que dans celle où son paternel pouvoir a péri. l'avenir de notre beau pays, où tout sera périodiquement mis en question, où l'on discutera sans cesse au lieu d'agir, où la presse, devenue souveraine, sera l'instrument des plus basses ambitions, prouvera la sagesse de ce roi qui vient d'emporter avec lui les vrais principes du gouvernement. Et l'histoire lui tiendra compte du courage avec lequel il a résisté à ses meilleurs amis, après avoir sondé la plaie, en avoir reconnu l'étendue, et vu la nécessité des moyens curatifs qui n'ont pas été soutenus par ceux pour lesquels il se mettait sur la brèche. Eh bien, monsieur le curé, vous y allez franchement et sans le moindre déguisement, s'écria Gérard. Mais je ne vous contredirai pas. Napoléon, dans sa campagne de Russie, était de 40 ans en avant sur l'esprit de son siècle. Il n'a pas été compris. La Russie et l'Angleterre de 1830 expliquent la campagne de 1812. Charles X a éprouvé le même malheur. Dans 25 ans, ces ordonnances deviendront peut-être des lois. La France, pays trop éloquent pour n'être pas bavard, pays trop plein de vanité pour qu'on y reconnaisse les vrais talents, est, malgré le sublime bon sens de sa langue et de ses masses, le dernier de tous où le système des deux assemblées délibérantes pouvait être admis, reprit le juge de paix. Au moins, les inconvénients de notre caractère devaient-ils être combattus par les admirables restrictions que l'expérience de Napoléon y avait opposées. Ce système peut encore aller dans un pays dont l'action est circonscrite par la nature du sol, comme en Angleterre. Mais le droit d'aînesse, appliqué à la transmission de la terre, est toujours nécessaire. Et quand ce droit est supprimé, le système représentatif devient une folie. L'Angleterre doit son existence à la loi quasi-féodale qui attribue les terres et l'habitation de la famille aux aînés. La Russie est assise sur le droit féodal pur. Aussi ces deux nations sont-elles aujourd'hui dans une voie de progrès effrayant. L'Autriche n'a pu résister à nos invasions et recommencer la guerre contre Napoléon qu'en vertu de ce droit d'aînesse qui conserve agissantes les forces de la famille et maintient les grandes productions nécessaires à l'État. La maison de Bourbon, en se sentant couler au troisième rang en Europe par la faute de la France, a voulu se maintenir à sa place, et le pays l'a renversée au moment où elle sauvait le pays. Je ne sais où nous fera descendre le système actuel. Vienne la guerre, la France sera sans chevaux, comme Napoléon en 1813, qui, réduite aux seules ressources de la France, n'a pu profiter des deux victoires de Lutzen et Bautzen, et s'est vue écrasée à Leipzig, s'écria Grosse-Tête. Si la paix se maintient, le mal ira croissant. Dans 25 ans d'ici, les races bovines et chevalines auront diminué de moitié en France. « Monsieur Grosse-Tête a raison, » dit Gérard. « Aussi, l'œuvre que vous voulez tenter ici, madame, » reprit-il en s'adressant à Véronique, « est-elle un service rendu au pays ?»« Oui, » dit le juge de paix, « parce que madame n'a qu'un fils. Le hasard de cette succession se perpétuera-t-il ?» Pendant un certain laps de temps, la grande et magnifique culture que vous établirez, espérons-le, n'appartenant qu'à un seul propriétaire, continuera de produire des bêtes à cornes et des chevaux. Mais malgré tout, un jour viendra où forêts et prairies seront ou partagées ou vendues par lot. De partages en partages, les 6000 arpents de votre plaine auront 1000 ou 1200 propriétaires. Et dès lors, plus de chevaux ni de haut bétail. Oh, dans ce temps-là, dit le maire, entendez-vous le « qu'est-ce que cela me fait ?» signalé par M. Clouzier, s'écria M. Grosse-Tête. Vous voilà pris sur le fait. Mais, monsieur, reprit le banquier d'un ton grave en s'adressant au maire, stupéfait, ce temps est venu. Sur un rayon de 10 lieues autour de Paris, la campagne, divisée à l'infini, peut à peine nourrir les vaches laitières. La commune d'Argenteuil compte 38 885 parcelles de terrain, dont plusieurs ne donnent pas 15 centimes de revenus. Sans les puissants engrais de Paris, qui permettent d'obtenir des fourrages de qualité supérieure, je ne sais comment les nourrisseurs pourraient se tirer d'affaire. Encore cette nourriture violente, et le séjour des vaches à l'étable, les fait-elle mourir de maladies inflammatoires. On use les vaches autour de Paris, comme on y use les chevaux dans les rues. Des cultures plus productives que celles de l'herbe. Les cultures maraîchères, le fruitage, les pépinières, la vigne y anéantissent les prairies. Encore quelques années, et le lait viendra en poste à Paris, comme y vient la marée. Ce qui se passe autour de Paris a lieu de même aux environs de toutes les grandes villes. Le mal de cette division excessive des propriétés s'étend autour de 100 villes en France, et la dévorera quelques jours tout entière. À peine, selon Chaptal, comptait-on, en 1800, 2 millions d'hectares en vignobles. Une statistique exacte vous en donnerait au moins 10, aujourd'hui. Divisée à l'infini par le système de nos successions, la Normandie perdra la moitié de sa production chevaline et bovine, mais elle aura le monopole du lait à Paris, car son climat s'oppose, heureusement, à la culture de la vigne. Aussi sera-ce un phénomène curieux que celui de l'élévation progressive du prix de la viande. En 1850, dans 20 ans d'ici, Paris, qui payait la viande 7 et 11 sous la livre en 1814, la paiera 20 sous, à moins qu'il ne survienne un homme de génie qui sache exécuter la pensée de Charles X. Vous avez mis le doigt sur la grande plaie de la France, reprit le juge de paix. La cause du mal gît dans le titre des successions du Code civil, qui ordonne le partage égal des biens. Là est le pilon dont le jeu perpétuel émiette le territoire, individualise les fortunes en leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui, décomposant sans recomposer jamais, finira par tuer la France. La Révolution française a émis un virus destructif, auquel les journées de juillet viennent de communiquer une activité nouvelle. Ce principe morbifique l'accession du paysan à la propriété. Si le titre des successions est le principe du mal, le paysan en est le moyen. Le paysan ne rend rien de ce qu'il a conquis. Une fois que cet ordre a pris un morceau de terre dans sa gueule toujours béante, il le subdivise tant qu'il y a 3 sillons. Encore alors ne s'arrête-t-il pas. Il partage les 3 sillons dans leur longueur, comme monsieur vient de vous le prouver par l'exemple de la commune d'Argenteuil. La valeur insensée que le paysan attache aux moindres parcelles rend impossible la recomposition de la propriété. D'abord, la procédure et le droit sont annulés par cette division. La propriété devient un non-sens. Mais ce n'est rien que de voir expirer la puissance du fisc et de la loi sur les parcelles qui rendent impossibles ces dispositions les plus sages. Il y a des maux encore plus grands. On a des propriétaires de 15, de 25 centimes de revenus. Monsieur, dit-il en indiquant Grosse Tête, vient de vous parler de la diminution des races bovines et chevalines. Le système légal y est pour beaucoup. Le paysan propriétaire n'a que des vaches. Il en tire sa nourriture, il vend les veaux, il vend même le beurre, il ne s'avise pas d'élever des bœufs, encore moins des chevaux. Mais comme ils ne récoltent jamais assez de fourrage pour soutenir une année de sécheresse, il envoie sa vache au marché quand il ne peut plus la nourrir. Si, par un hasard fatal, la récolte du foin manquait pendant 2 années de suite, vous verriez à Paris, la 3e année, d'étranges changements dans le prix du bœuf, mais surtout dans celui du veau. Comment pourra-t-on faire alors les banquets patriotiques ? Dit en souriant le médecin. Oh ! S'écria Madame Grasselin en regardant Roubaud. La politique ne peut donc se passer nulle part du petit journal, même ici. La bourgeoisie, reprit Clouzier, remplit dans cette horrible tâche le rôle des pionniers en Amérique. Elle achète les grandes terres sur lesquelles le paysan ne peut rien entreprendre. Elle se les partage. Puis, après les avoir mâchées, divisées, la licitation ou la vente en détail les livre plus tard aux paysans. Tout se résume par des chiffres, aujourd'hui. Je n'en sais pas de plus éloquent que ceci. La France a 49 millions d'hectares qu'il serait convenable de réduire à 40. Il faut en distraire les chemins, les routes, les dunes, les canaux et les terrains infertiles, incultes ou désertés par les capitaux, comme la plaine de Montaignac. Or, sur 40 millions d'hectares, pour 32 millions d'habitants, il se trouve 125 millions de parcelles sur la cote générale des impositions foncières. J'ai négligé les fractions. Ainsi, nous sommes au-delà de la loi agraire, et nous ne sommes au bout ni de la misère ni de la discorde. Ceux qui mettent le territoire en miettes et amoindrissent la production auront des organes pour crier que la vraie justice sociale consisterait à ne donner à chacun que l'usufruit de sa terre. Ils diront que la propriété perpétuelle est un vol. Les Saint-Simoniens ont commencé. Le magistrat a parlé, dit Grosse Tête. Voici que le banquier ajoute à ses courageuses considérations. La propriété, rendu accessible aux paysans et aux petits bourgeois, cause à la France un tort immense que le gouvernement ne soupçonne même pas. On peut évaluer à 3 millions de familles la masse des paysans, abstraction faite des indigents. Ces familles vivent de salaire. Le salaire se paie en argent au lieu de se payer en denrées. Encore une faute immense de nos lois, s'écria Clouzier en interrompant. La faculté de payer en denrées pouvait être ordonnée en 1790. Mais, aujourd'hui, porter une pareille loi, ce serait risquer une révolution. Ainsi le prolétaire attire à lui l'argent du pays. Or, reprit Grosse Tête, le paysan n'a pas d'autre passion, d'autre désir, d'autre vouloir, d'autre point de mire, que de mourir propriétaire. Ce désir, comme l'a fort bien établi M. Clouzier, est né de la Révolution. Il est le résultat de la vente des biens nationaux. Il faudrait n'avoir aucune idée de ce qui se passe au fond des campagnes, pour ne pas admettre, comme un fait constant, que ces 3 millions de familles enterrent annuellement 50 francs et soustraient ainsi 150 millions au mouvement de l'argent. La science de l'économie politique a mis à l'état d'axiome qu'un écu de 5 francs qui passe dans 100 mains pendant une journée équivaut d'une manière absolue à 500 francs. Or, il est certain pour nous autres, vieux observateurs de l'état des campagnes, que le paysan choisit sa terre. Il la guette et l'attend. Il ne place jamais ses capitaux. L'acquisition par les paysans doit donc se calculer par période de 7 ans. Les paysans laissent donc, par 7 années, inerte et sans mouvement, une somme de 1 100 millions. Certes, la petite bourgeoisie en enterre bien autant, et se conduit de même à l'égard des propriétés auxquelles le paysan ne peut pas mordre. En 42 ans, la France aura donc perdu, par période de 7 années, les intérêts d'au moins 2 milliards, c'est-à-dire environ 100 millions par 7 ans, ou 600 millions en 42 ans. Mais elle n'a pas perdu seulement 600 millions. Elle a manqué à créer pour 600 millions de productions industrielles ou agricoles, qui représentent une perte de 1200 millions. Car si le produit industriel n'était pas le double en valeur de son prix de revient en argent, le commerce n'existerait pas. Le prolétariat perd donc 600 millions de salaires. C'est 600 millions de pertes sèches, mais qui, pour un sévère économiste, représente, par les bénéfices manquants de la circulation, une perte d'environ 1200 millions, explique l'état d'infériorité où se trouve notre commerce, notre marine et notre agriculture à l'égard de celle de l'Angleterre. Malgré la différence qui existe entre les deux territoires et qui est, de plus, des deux tiers en notre faveur, l'Angleterre pourrait remonter la cavalerie de deux armées françaises et la viande y existe pour tout le monde. Mais aussi, dans ce pays, comme l'assiette de la propriété rend son acquisition presque impossible aux classes inférieures, tout écu devient commerçant et roule. Ainsi, outre la plaie du morcellement, celle de la diminution des races bovines, chevalines et ovines, le titre des successions nous vaut encore 600 millions d'intérêts perdus, par l'enfouissement des capitaux du paysan et du bourgeois, 1200 millions de productions en moins, ou 3 milliards de non-circulation par demi-siècle. L'effet moral est pire que l'effet matériel, s'écria le curé. Nous fabriquons des propriétaires mendiants chez le peuple, des demi-savants chez les petits bourgeois, et le chacun chez soi, chacun pour soi, qui avait fait son effet dans les classes élevées en juillet de cette année, aura bientôt gangrené les classes moyennes. Un prolétariat déshabitué de sentiments, sans autre dieu que l'envie, sans autre fanatisme que le désespoir de la faim, sans foi ni croyance, s'avancera et mettra le pied sur le cœur du pays. L'étranger, grandi sous la loi monarchique, nous trouvera sans roi avec la royauté, sans loi avec la légalité, sans propriétaire avec la propriété, sans gouvernement avec l'élection, sans force avec le libre arbitre, sans bonheur avec l'égalité. Espérons que d'ici là, Dieu suscitera en France un homme providentiel, un de ses élus qui donne aux nations un nouvel esprit, et que, soit Marius, soit Sylla, qu'il s'élève d'en bas ou vienne d'en haut, il refera la société. On commencera par l'envoyer en cour d'assises ou en police correctionnelle, répondit Gérard. Le jugement de Socrate et celui de Jésus-Christ seraient rendus contre eux en 1831, comme autrefois à Jérusalem ou dans l'Attique. Aujourd'hui, comme autrefois, les médiocrités jalouses laissent mourir de misère les penseurs, les grands médecins politiques qui ont étudié les plaies de la France et qui s'opposent à l'esprit de leur siècle. S'ils résistent à la misère, nous les ridiculisons ou nous les traitons de rêveurs. En France, on se révolte dans l'ordre moral contre le grand homme d'avenir, comme on se révolte dans l'ordre politique contre le souverain. Autrefois, les sophistes parlaient à un petit nombre d'hommes. Aujourd'hui, la presse périodique leur permet d'égarer toute une nation, s'écria le juge de paix. Et la presse qui plaide pour le bon sens n'a pas d'écho. Le maire regardait M. Clouzier dans un profond étonnement. Madame Grasselin, heureuse de rencontrer dans un simple juge de paix un homme occupé de questions si graves, dit à M. Roubaud, son voisin, « Connaissez-vous M. Clouzier ?»«
Je ne le connais que d'aujourd'hui. »« Madame, vous faites des miracles !»
lui répondit-il à l'oreille. Cependant, voyez son front. Quelle belle forme! Ne ressemble-t-il pas au front classique ou traditionnel, donné par les statuaires, à Lycurgue et aux sages de la Grèce,
Évidemment, la révolution de juillet a un sens antipolitique. Dit à haute voix, et après avoir embrassé les calculs exposés par Grosse Tête, cet ancien étudiant, qui peut-être aurait fait une barricade. Ce sens est triple, dit Crouzier. Vous avez compris le droit de la finance. Mais voici, pour le gouvernement. Le pouvoir royal, affaibli par le dogme de la souveraineté nationale, en vertu de laquelle vient de se faire l'élection du 9 août 1830, essaiera de combattre ce principe rival, qui laisserait au peuple le droit de se donner une nouvelle dynastie chaque fois qu'il ne devinerait pas la pensée de son roi. Et nous aurons une lutte intérieure qui, certes, arrêtera pendant longtemps encore les progrès de la France. Tous ces écueils ont été sagement évités par l'Angleterre, reprit Gérard. J'y suis allé. J'admire cette ruche qui essaime sur l'univers et le civilise, chez qui la discussion est une comédie politique, destinée à satisfaire le peuple et à cacher l'action du pouvoir, qui se meut librement dans sa haute sphère, et où l'élection n'est pas dans les mains de la stupide bourgeoisie, comme elle l'est en France. Avec le morcellement de la propriété, l'Angleterre n'existerait plus déjà. La haute propriété, les lords, y gouvernent le mécanisme social. Leurs marines, au nez de l'Europe, s'emparent de portions entières du globe pour y satisfaire les exigences de leur commerce et y jeter les malheureux et les mécontents. Au lieu de faire la guerre aux capacités, de les annuler, de les méconnaître, l'aristocratie anglaise les cherche, les récompense et se les assimile constamment. Chez les Anglais, tout est prompt dans ce qui concerne l'action du gouvernement, dans le choix des hommes et des choses, tandis que chez nous, tout est lent. Et ils sont lents, et nous sommes impatients. Chez eux, l'argent est hardi et affairé. Chez nous, il est effrayé et soupçonneux. Ce qu'a dit M. Grosse Tête, des pertes industrielles que le paysan cause à la France, a sa preuve dans un tableau que je vais vous dessiner en deux mots. Le capital anglais, par son continuel mouvement, a créé pour 10 milliards de valeurs industrielles et d'actions portant rente, tandis que le capital français, supérieur comme abondance, n'en a pas créé la dixième partie. C'est d'autant plus extraordinaire, dit Roubaud, qu'ils sont lymphatiques et que nous sommes généralement sanguins ou nerveux. Voilà, monsieur, dit Clouzier, une grande question à étudier. Rechercher les institutions propres à réprimer le tempérament d'un peuple. Certes, Cromwell fut un grand législateur. Lui seul a fait l'Angleterre actuelle, en inventant l'acte de navigation, qui a rendu les Anglais les ennemis de toutes les autres nations, qui leur a inoculé un féroce orgueil, leur point d'appui. Mais malgré leur citadelle de Malte, si la France et la Russie comprennent le rôle de la mer Noire et de la Méditerranée, un jour, la route d'Asie par l'Égypte ou par l'Euphrate, régularisée au moyen des nouvelles découvertes, tuera l'Angleterre. Comme jadis, la découverte du Cap de Bonne-Espérance a tué Venise. « Et rien de Dieu !» s'écria le curé. « Monsieur Clouzier, Monsieur Roubaud, sont indifférents en matière de religion. « Et monsieur ? » dit-il en interrogeant Gérard. « Protestant, » répondit Grosse Tête. « Vous l'aviez deviné ?» s'écria Véronique en regardant le curé, pendant qu'elle offrait sa main à Clouzier pour monter chez elle. Les préventions que donnait, contre lui, l'extérieur de M. Gérard s'étaient promptement dissipées, et les trois notables de Montaignac se félicitèrent d'une semblable acquisition. « Malheureusement, dit M. Bonnet, il existe entre la Russie et les pays catholiques que baigne la Méditerranée une cause d'antagonisme, dans le schisme de peu d'importance qui sépare la religion grecque de la religion latine. Un grand malheur pour l'avenir de l'humanité.
Chacun prêche pour son saint, dit en souriant Madame Grasselin. Monsieur Grosse-Tête pense à des milliards perdus, Monsieur Clouzier aux droits bouleversés, le médecin voit dans la législation une question de tempérament, Monsieur le curé voit dans la religion un obstacle à l'entente de la Russie et de la France.
Ajoutez, madame, dit Gérard, que je vois dans l'enfouissement des capitaux du petit bourgeois et du paysan l'ajournement de l'exécution des chemins de fer en France. Que voudriez-vous donc? Dit-elle. Oh, les admirables conseillers d'État, qui, sous l'empereur, méditaient les lois, et ce corps législatif, élu par les capacités du pays aussi bien que par les propriétaires, et dont le seul rôle était de s'opposer à des lois mauvaises ou à des guerres de caprice. Aujourd'hui, telle qu'elle est constituée, la Chambre des députés arrivera, vous le verrez, à gouverner, ce qui constituera l'anarchie légale. « Mon Dieu !» s'écria le curé dans un accès de patriotisme sacré. « Comment se fait-il que des esprits aussi éclairés que ceux-ci, dit-il en montrant Clouzier, Roubaud et Gérard, voient le mal, en indiquent le remède, et ne commencent pas par se l'appliquer à eux-mêmes. Vous tous, qui représentez les classes attaquées, vous reconnaissez la nécessité de l'obéissance passive des masses dans l'État, comme à la guerre chez les soldats. Vous voulez l'unité du pouvoir, et vous désirez qu'il ne soit jamais mis en question. Ce que l'Angleterre a obtenu par le développement de l'orgueil et de l'intérêt humain, qui sont une croyance, ne peut s'obtenir ici que par les sentiments dus au catholicisme. Et vous n'êtes pas catholique.
Moi, prêtre, je quitte mon rôle. Je raisonne avec des raisonneurs. Comment voulez-vous que les masses deviennent religieuses et obéissent si elles voient l'irreligion et l'indiscipline au-dessus d'elles? Les peuples unis par une foi quelconque auront toujours bon marché, des peuples sans croyance. La loi de l'intérêt général, qui engendre le patriotisme, est immédiatement détruite par la loi de l'intérêt particulier qu'elle autorise et qui engendre l'égoïsme. Il n'y a de solide et de durable que ce qui est naturel, et la chose naturelle en politique est la famille. La famille doit être le point de départ de toutes les institutions.
Un effet universel démontre une cause universelle, et ce que vous avez signalé de toutes parts vient du principe social même, qui est sans force parce qu'il a pris le libre arbitre pour base. Et le libre arbitre est le père de l'individualisme. Faire dépendre le bonheur de la sécurité, de l'intelligence, de la capacité de tous, n'est pas aussi sage que faire dépendre le bonheur de la sécurité, de l'intelligence des institutions et de la capacité d'un seul. On trouve plus facilement la sagesse chez un homme que chez toute une nation. Les peuples ont un cœur et n'ont pas Dieu. Ils sentent et ne voient pas. Les gouvernements doivent voir et ne jamais se déterminer par les sentiments. Il y a donc une évidente contradiction entre les premiers mouvements des masses et l'action du pouvoir qui doit en déterminer la force et l'unité. Rencontrer un grand prince est un effet du hasard, pour parler votre langage. Mais se fier à une assemblée quelconque, fût-elle composée d'honnêtes gens, est une folie. La France est folle en ce moment. Hélas, vous en êtes convaincu aussi bien que moi. Si tous les hommes de bonne foi, comme vous, donnaient l'exemple autour d'eux, si toutes les mains intelligentes relevaient les autels de la grande république des âmes, nous pourrions revoir en France les miracles qui firent nos pères. « Que voulez-vous, monsieur le curé ? » dit Gérard. « S'il faut vous parler comme au confessionnal, je regarde la foi comme un mensonge qu'on se fait à soi-même, l'espérance comme un mensonge qu'on se fait sur l'avenir. »
et votre charité comme une ruse d'enfant qui se tient sage pour avoir des confitures. On dort cependant bien, monsieur, dit madame Grasselin, quand l'espérance nous berce. Cette parole arrêta Roubaud, qui allait parler, et fut appuyée par un regard de grosse tête et du curé. Est-ce notre faute à nous, dit Clouzier, si Jésus-Christ n'a pas eu le temps de formuler un gouvernement d'après sa morale, comme l'ont fait Moïse et Confucius, les deux plus grands législateurs humains? Car les Juifs et les Chinois existent, les uns malgré leur dispersion sur la terre entière, et les autres malgré leur isolement, encore de nations. Ah, vous me donnez bien de l'ouvrage, s'écria naïvement le curé. Mais je triompherai, je vous convertirai tous. Vous êtes plus près que vous ne le croyez de la foi. C'est derrière le mensonge que se tapit la vérité. Avancez d'un pas et retournez-vous. Sur ce cri du curé, la conversation changea.